Donc, ce que j'avais essayé de dire hier, c'est comment ce qui apparaissait comme un donné biologique. Le mot « donné biologique » est très important pour nous. Hein, parce qu'évidemment, le donné biologique, en fait, le présupposé, c'est qu'on a une approche purement scientifique du corps humain. Or, évidemment, lorsqu'on réfléchit sur le corps sexué, on n'a pas une approche purement scientifique du corps. Le corps propre, hein, c'est pas simplement l'objet d'une science. C'est beaucoup plus fondamentalement, justement, un élément essentiel de notre personne. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, alors que le donné biologique pouvait apparaître comme un fait non construit, et le genre lié à des dispositions sociales, on avait vu donc hier, en finissant, que Butler ici essaye d'envisager que ce donné biologique, ce soi-disant donné biologique, est un effet du genre. C'est-à-dire, en fait, alors ma question, c'est comment c'est possible, comment on peut penser une chose pareille? Parce que ça paraît, encore une fois, totalement incroyable. On peut penser une chose pareille si on se donne des outils permettant de comprendre la puissance de construction à l'œuvre dans le monde humain. Et quand je dis puissance de construction à l'œuvre dans le monde humain, je veux parler du langage, mais je veux aussi parler, j'en ai parlé un peu hier, de toutes ces dispositions, de toutes ces habitudes que nous contractons au fur et à mesure de notre vie sociale et qui finissent par influencer notre rapport au monde, qui finissent par être comme des schèmes, des, je ne sais pas comment dire ça, des schèmes de perception du monde, des prismes de perception du monde. Alors, c'est ça qu'il va falloir creuser ce matin. Comment on peut envisager le langage? Et vous allez remarquer que très souvent, Butler n'utilise pas tellement le mot langage, mais utilise l'expression des pratiques discursives. Vous allez me dire, les pratiques discursives, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des pratiques discursives, ça dit déjà un point très important, c'est que ça met en évidence le caractère assez prégnant de nos discours. Le mot pratique, hein, ça renvoie à une certaine épaisseur. Pratique en grec, praxis, ça veut dire l'action. Donc une pratique discursive, c'est comme si le langage était structurant. Comme si le langage nous façonnait. Comme si le langage nous façonnait. Alors, pour essayer d'un peu mieux comprendre ça, et on va travailler quelques textes tout à l'heure de Foucault, mais on peut avoir une vision du langage qui, évidemment, rend impossible à comprendre ce que dit Butler. On peut avoir une vision du langage où le langage est limité simplement à émettre des signes qui transportent des informations qu'on a saisies. Donc là, évidemment, tout ce que nous raconte Butler sur la pratique discursive nous apparaît, encore une fois, impensable. Or, nous, l'objectif, quand même, c'est de comprendre ce que Butler dit. Si on ne comprend pas ce que quelqu'un dit, on ne peut pas le critiquer et discuter avec lui. Bon. Et donc, si on a une vision du langage, je répète, purement extérieure et informative, comment dire, pratique discursive, ça paraît être absurde. Bon. Or, le discours dont parle Butler, c'est pas simplement quand moi j'ouvre la bouche pour vous parler, et vous entendez les sons de voix, et puis vous comprenez selon les mots que j'utilise, vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas, bon, ça dépend. Le discours, c'est pas simplement ça pour elle. Le discours, c'est l'ensemble des systèmes signifiants. Si vous voulez, c'est la culture, donc les sciences, les lois, les manières d'être, les manières de se comporter, les habitudes de vie. C'est l'ensemble des dispositifs culturels qui non seulement nous façonnent à notre insu, mais d'une certaine manière que nous produisons par nos actes. Autrement dit, une culture, elle imprègne des individus. Mais la culture, ce n'est pas une sorte de matrone qui est derrière notre dos et qui nous dit « alors fais ci, fais ça ». Qu'est-ce qui fait exister une culture ? Bah, c'est les actes des personnes qui vivent dans cette culture. C'est à chaque fois que nous allons petit déjeuner, que nous mettons nos choses comme ça, que nous faisons ci, etc., que finalement nous validons une coutume et que nous l'entretenons. Vous voyez ? Et donc à la fois, nous sommes en partie conditionnés par des manières de faire, qui sont plus ou moins importantes, là mon exemple est évidemment très banal, mais donc à la fois nous sommes conditionnés par une pratique et par des manières de faire, mais à chaque fois que nous respectons cette coutume, nous la renforçons, et nous nous façonnons grâce à elle, d'accord ? Et donc, il faut, vous voyez, élargir hein, ce terme de discursif, pas simplement à une vision purement, très très légère et très abstraite du langage. D'accord ? D'où le mot pratique. Alors, ça va se préciser au fur et à mesure, hein, mais je voulais déjà dire ça pour donner un peu plus d'épaisseur aux choses. Alors, il y a un autre point. quand Butler nous dit. Que le dire que le sexe, hein, la phrase que j'avais lue à la fin hier, dire que le sexe est produit en tant que donnée prédiscursive, c'est dire que cette production est un effet de cet appareil de construction culturelle qu'est le genre. Donc ici, en fait, le sexe biologique, anatomique, chromosomique, hormonal, etc. Il est l'objet d'un discours scientifique, et d'un discours scientifique qui est lui-même soumis à une évolution, à une histoire. Autrement dit, il y a une histoire des sciences, il y a des représentations scientifiques. Or, la science, elle est fabriquée par des hommes. Vous voyez ? Et là, il y a un présupposé de Butler, qui est un présupposé nietzschéen, et le présupposé nietzschéen dans ce texte, c'est le rapport, c'est le mot généalogie qui le dit. Hein, dans la premier paragraphe du texte, hein, je suis page 6, premier paragraphe. Quand elle pose la question, il y a une série de questions, elle dit « Le sexe a-t-il une histoire ?» On va dire « Bah, le sexe a-t-il une histoire ? Si le sexe est une dimension biologique, il n'a pas d'histoire, enfin bon. Le sexe a-t-il une histoire ? Est-ce que chacun des deux sexes a une ou des histoires différentes ? Y a-t-il une histoire de la manière dont la dualité de sexe fut établie ? Une généalogie qui permette de démontrer que cette dualité est une construction variable dans le temps et l'espace. Les faits prétendument naturels du sexe sont-ils produits à travers différents discours scientifiques qui servent d'autres intérêts politiques et sociaux ? Alors, plusieurs choses. Là, vous avez à la fois une influence marxiste, donc différents discours scientifiques qui servent d'autres intérêts politiques et sociaux. Ça, c'est quasiment la définition de l'idéologie chez Marx, dont je parlais hier. Des discours qui se donnent comme scientifiques, objectifs, neutres. C'est la science, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais en fait, ils ont été produits secrètement et inconsciemment pour servir des intérêts politiques et sociaux. Évidemment, ici, l'hétérosexisme à finalité reproductive. Donc, ici, la science est dans un conditionnement social. Les savants, ils ne tombent pas du ciel. Ils sont membres d'une société politique. Les savants, souvent, ils sont partie prenante d'une vie sociale et politique. Et donc, ici, les intérêts soi-disant désintéressés, si l'on peut parler comme ça, les intérêts désintéressés de la science, on va dire la science, elle est tournée vers le désir de vérité, le désir de vérité, il est gratuit. Oui, mais Nietzsche, justement, a cherché à mettre en cause ce désir de vérité désintéressé. Parce que le désir désintéressé de la vérité, c'est une inclination naturelle de l'esprit humain. Oui. C'est un des points de départ d'Aristote ou de Platon. Mais justement, si vous n'avez plus de nature humaine, si vous contestez la nature humaine, il n'y a pas d'inclination naturelle de notre intelligence au vrai. Donc, si l'intelligence, cherche la vérité, c'est que il y a un secret intérêt sous-jacent à cette recherche. D'accord ? Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Comme on va le voir et comme j'ai déjà vu un peu hier, des rapports de force. Des rapports de force, c'est-à-dire un désir de pouvoir, un désir d'imposer quelque chose.